Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un troisième extrait du roman de George Orwell, 1984. Winston posa la main sur la poignée de la porte quand il s'aperçut qu'il avait laissé le journal ouvert sur la table. ABBA, Big Brother, y était écrit de haut en bas en lettres assez grandes pour être lisibles de la porte. C'était d'une stupidité inconcevable. Mais il comprit que même dans sa panique, il n'avait pas voulu, en fermant le livre alors que l'encre était humide, tacher le papier crémeux. Il retint sa respiration et ouvrit la porte. Instantanément, une chaude vague de soulagement le parcourut. Une femme incolore, aux cheveux en mèche, au visage ridé et qui semblait accablée, se tenait devant la porte. « Oh, camarade, dit-elle d'une voix lugubre et geignarde, je pensais bien vous avoir entendu rentrer. Pourriez-vous jeter un coup d'œil sur notre évier? Il est bouché et... » C'était Madame Parson, la femme du voisin de palier. Madame était un mot quelque peu désapprouvé par le parti. Normalement, on devait appeler tout le monde camarade, mais avec certaines femmes, on employait madame, instinctivement. C'était une femme d'environ 30 ans, mais qui paraissait beaucoup plus âgée. On avait l'impression que dans les plis de son visage, il y avait de la poussière. Winston la suivit le long du palier. Ses besognes d'amateur pour des réparations presque journalières l'irritaient chaque fois. Les appartements du bloc de la Victoire étaient anciens, ils avaient été construits en 1930 environ, et tombaient en morceaux. Le plâtre des plafonds et des murs s'écaillait continuellement, les conduites éclataient à chaque gelée dure, le toit crevait dès qu'il neigeait. Le chauffage central marchait habituellement à basse pression, quand par économie il n'était pas fermé tout à fait. Les réparations, sauf celles qu'on pouvait faire soi-même, devaient être autorisées par de lointains comités. Elles étaient sujettes à des retards de 2 ans même, s'il ne s'agissait que d'un carreau de fenêtre. « Naturellement, si je viens, c'est que Tom n'est pas là. Autrement, » dit vaguement Madame Parson. L'appartement des Parson était plus grand que celui de Winston. Il était médiocre d'une autre façon. Tout avait un air battu et piétiné, comme si l'endroit venait de recevoir la visite d'un grand et violent animal. Sur le parquet traînaient partout des instruments de jeu, des bâtons de hockey, des gants de boxe, un ballon de foot crevé, un short à l'envers trempé de sueur. Il y avait sur la table un fouillis de plats sales et de cahiers écornés. Sur les murs, on voyait des bannières écarlates des espions et de la Ligue de la Jeunesse, et un portrait grandeur nature de Big Brother. Il y avait l'odeur habituelle du chou cuit, commune à toute la maison, mais qui était ici traversée par un relent de sueur plus accentué. Et cette sueur, on s'en apercevait dès la première bouffée, bien qu'il fût difficile d'expliquer comment, était la sueur d'une personne pour le moment absente. Dans une autre pièce, quelqu'un essayait, à l'aide d'un peigne et d'un bout de papier hygiénique, d'harmoniser son chant avec la musique militaire que continuait à émettre le télécran. « Ce sont les enfants, » dit Madame Parson, en jetant un regard à moitié craintif vers la porte. « Ils ne sont pas sortis aujourd'hui, naturellement. »
Thank you.
Elle avait l'habitude de s'arrêter au milieu de ses phrases. L'évier de la cuisine était rempli, presque jusqu'au bord, d'une eau verdâtre et sale qui sentait plus que jamais le chou. Winston s'agenouilla et examina le joint du tuyau. Il détestait se servir de ses mains. Il détestait se baisser, ce qui pouvait le faire tousser. Madame Parsons regardait, impuissante. « Naturellement, dit-elle, si Tom était là, il aurait réparé cela tout de suite. Il aime ce genre de travaux. Il est tellement adroit de ses mains, Tom. » Parsons était un collègue de Winston au ministère de la Vérité. C'était un homme grassouillé mais actif, d'une stupidité paralysante, un monceau d'enthousiasmes imbéciles, un de ces esclaves dévots qui ne mettent rien en question et sur qui, plus que sur la police de la pensée, reposait la stabilité du parti. À 35 ans, il venait, contre sa volonté, d'être évincé de la Ligue de la Jeunesse et avant d'obtenir le grade qui lui avait ouvert l'accès de cette Ligue, il s'était arrangé pour passer parmi les espions une année de plus que le voulait l'âge réglementaire. Au ministère, il occupait un poste subalterne où l'intelligence n'était pas nécessaire, mais il était par ailleurs une figure directrice du comité des sports et de tous les autres comités organisateurs de randonnées en commun, de manifestations spontanées, de campagnes pour l'économie et généralement d'activités volontaires. Il pouvait, entre deux bouffées de sa pipe, vous faire savoir avec une fierté tranquille que pendant ces quatre dernières années, il s'était montré chaque soir au centre communautaire. Une accablante odeur de sueur, un conscient témoignage de l'ardeur qu'il déployait, le suivait partout et même demeurait derrière lui alors qu'il était parti. « Avez-vous une clé anglaise ?» demanda Winston qui tournait et retournait l'écrou sur le joint. « Une clé anglaise ?» répéta Madame Parsons immédiatement devenue amorphe. « Je ne sais pas, bien sûr. Peut-être que les enfants... » Il y eut un piétinement de souliers et les enfants entrèrent au pas de charge dans le living room en soufflant sur le peigne. Madame Parsons apporta la clé anglaise. Winston fit couler l'eau et enleva avec dégoût le tortillon de cheveux qui avait bouché le tuyau. Il se nettoya les doigts comme il put sous l'eau froide du robinet et retourna dans l'autre pièce. « Oh les mains !» hurla une voix sauvage. Un garçon de 9 ans, beau, l'air pas commode, s'était brusquement relevé de derrière la table et le menaçait de son jouet, un pistolet automatique. Sa sœur de 2 ans plus jeune environ faisait le même geste avec un bout de bois. Ils étaient tous deux revêtus de shorts bleus, de la chemise grise et du foulard rouge que composait l'uniforme des espions. Winston leva les mains au-dessus de sa tête, mais l'attitude du garçon était à ce point malveillante qu'il en éprouvait un malaise et le sentiment que ce n'était pas tout à fait un jeu. « Vous êtes un traître !» hurla le garçon. « Vous trahissez par la pensée. Vous êtes un espion eurasien. Je vais vous fusiller, vous vaporiser, vous envoyer dans les mines de sel. » Les deux enfants se mirent soudain à sauter autour de lui et à crier « Traître ! Criminel de la pensée !» La petite fille imitait tous les mouvements de son frère. C'était légèrement effrayant. Cela ressemblait à des gambades de petits tigres qui bientôt grandiraient et deviendraient des mangeurs d'hommes. Il y avait comme une férocité calculée dans l'œil du garçon, un désir tout à fait évident de frapper Winston des mains et des pieds et la conscience d'être presque assez grand pour le faire. C'était une chance pour Winston que le pistolet ne fût pas un vrai pistolet. Les yeux de Madame Parsons voltigèrent nerveusement de Winston aux enfants et inversement. Winston, dans la lumière plus vive du living room, remarqua avec intérêt qu'elle avait véritablement de la poussière dans les plis de son visage. « Ils sont si bruyants, dit-elle. Ils sont désappointés parce qu'ils ne peuvent pas aller voir la pendaison. C'est pour cela que je suis trop occupée pour les conduire et Tom ne sera pas rentré à temps de son travail. » « Pourquoi ne pouvons-nous pas aller voir la pendaison ?» rugit le garçon de sa voix pleine. « Veux voir la pendaison ! Veux voir la pendaison !» chanta la petite fille qui gambadait autour. Winston se souvint que quelques prisonniers eurasiens, coupables de crimes de guerre, devait être pendu dans le parc cet après-midi-là. Cela se répétait chaque mois environ et c'était un spectacle populaire. Les enfants criaient pour s'y faire conduire. Winston salua Madame Parson et sortit. Mais il n'avait pas fait 6 pas sur le palier que quelque chose le frappait à la nuque. Le coup fut atrocement douloureux. C'était comme si on l'avait transpercé avec un fil de fer chauffé au rouge. Il se retourna juste à temps pour voir Madame Parson tirer son fils pour le faire rentrer, tandis que le garçon mettait une fronde dans sa poche. « Goldstein !» hurla le garçon, tandis que la porte se refermait sur lui. Mais ce qui frappa le plus Winston, ce fut l'expression de frayeur impuissante du visage grisâtre de la femme. De retour dans son appartement, il passa rapidement devant l'écran et se rassit devant la table tout en se frottant le cou. La musique du télécran s'était tue. Elle était remplacée par une voix coupante et militaire qui lisait avec une sorte de plaisir brutal une description de la nouvelle forteresse volante qui venait d'être ancrée entre la terre de glace et les îles Féroé. Cette pauvre femme, pensa Winston, doit vivre dans la terreur de ses enfants. Dans 1 an ou 2, ils surveilleront nuit et jour chez elle les symptômes de non-orthodoxie. Presque tous les enfants étaient maintenant horribles. Le pire, c'est qu'avec des organisations telles que celles des espions, ils étaient systématiquement transformés en ingouvernables petits sauvages. Pourtant, cela ne produisait chez eux aucune tendance à se révolter contre la discipline du parti. Au contraire, ils adoraient le parti et tout ce qui s'y rapportait, les chansons, les processions, les bannières, les randonnées en bande, les exercices avec des fusils factices, l'aboiement des slogans, le culte de Big Brother, c'était pour eux comme un jeu magnifique. Toute leur férocité était extériorisée contre les ennemis de l'État, contre les étrangers, les traîtres, les saboteurs, les criminels par la pensée. Il était presque normal que des gens de plus de 30 ans aient peur de leurs propres enfants. Et ils avaient raison. Il se passait en effet rarement une semaine sans qu'un paragraphe du Time ne relatât comment un petit mouchard quelconque, enfant héros, disait-on, avait, en écoutant aux portes, entendu une remarque compromettante et dénoncé ses parents à la police de la pensée. La brûlure causée par le projectile s'était éteinte. Winston prit sa plume sans entrain. Il se demandait s'il trouverait quelque chose de plus à écrire dans son journal. Tout à coup, sa pensée se reporta vers O'Brien. Il y avait longtemps. Combien de temps? 7 ans peut-être? Il avait rêvé qu'il traversait une salle où il faisait noir comme dans un four. Quelqu'un assis dans cette salle avait dit, alors que Winston passait devant lui, « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres. » Ce fut dit calmement, comme par hasard. C'était une constatation, non un ordre. Winston était sorti sans s'arrêter. Le curieux était qu'à ce moment, dans le rêve, les mots ne l'avaient pas beaucoup impressionné. C'est seulement plus tard et par degrés qu'ils avaient pris tout leur sens. Il ne pouvait maintenant se rappeler si c'était avant ou après ce rêve qu'il avait vu O'Brien pour la première fois. Il ne pouvait pas non plus se rappeler à quel moment il avait identifié la voix comme étant celle d'O'Brien. L'identification, en tout cas, était faite. C'était O'Brien qui avait parlé dans l'obscurité. cet enfant que tu m'avais fait, pas le premier, mais le second, te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Ce bel enfant au corps tout blanc, te souviens-tu? Offrez-moi une cigarette, j'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Caressez-moi encore la tête, j'ai tout mon temps pour aujourd'hui. Que disiez-vous?
Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast.
Les maudits sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots.